Le thème de ma prédication est « Ne vous inquiétez de rien ». Sans aucun doute, depuis la pandémie de la COVID-19, la santé mentale des adolescents a été malmenée. D'ailleurs, les filles sont bien plus impactées que les garçons. Une étude menée aux États-Unis montre l'impact négatif des médias sociaux. Le dictat des likes, l'obligation de fournir de nouveautés sortant de l'ordinaire, la mise en scène de sa propre personne crée un fossé entre le vrai vécu et la représentation que l'on donne de soi-même. Découragement, anxiété, dépression, tentatives de suicide augmentent d'une manière inquiétante. En France, le gouvernement a pris des mesures et invite les jeunes à en parler. L'incompréhension entre vaccinés et opposants au vaccin crée des tensions même au sein des familles et amplifie les tensions existantes. La guerre en Ukraine génère une inquiétude et on se demande combien de temps vont durer ces combats. Reste-t-il limité à l'Ukraine ou vont-ils entraîner d'autres pays dans cette guerre insensée? Bien que nous ne soyons pas directement engagés dans la guerre, nous en ressentons les conséquences. La flambée des prix, l'inflation qui gagne le terrain, nos salaires qui n'augmentent que modestement, génèrent un sentiment d'inquiétude que nous réserve l'avenir. Le texte biblique que je vous présente contient trois fois l'ordre suivant. Ne vous inquiétez de rien. Je vous lis un extrait de l'Évangile selon Matthieu, les versets 19 à 34, du chapitre 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir de maître, car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre et de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, fait ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qu'ils recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendre soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce paragraphe forme une unité centrée sur l'ordre de ne pas s'inquiéter. Il fait partie du serment de la montagne où Jésus a enseigné ses disciples et la foule qui les entourait. Le serment sur la montagne enseigne comment vivre dans le royaume de Dieu ou l'Église. Voici comment notre texte peut se découper. Le premier point, les bons trésors. Deuxièmement, une lumière pure. Troisièmement, un seul maître. Quatrième voie, ne vous inquiétez pas. Et en cinquième point, un seul objectif. Premièrement, les bons trésors. Chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les miettes et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il n'y a qu'un petit pas entre posséder des objets et y trouver son assurance. Mais si vous cherchez l'assurance dans le matériel, vous bâtissez sur du sable. C'est un trésor qui peut vous être enlevé en rien de temps. Ainsi, j'ai perdu en un clin d'œil mon minibus garé devant ma maison. Un voleur l'a enlevé. Même des diplômes peuvent perdre leur valeur. La liste des choses de valeur incertaine ou limitée dans le temps est longue. Ne dit-on pas que beaucoup d'appareils et outils sont conçus pour ne durer que 5 ans? Ce qui représente une tentation pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Mais ne nous trompons pas. Nous sommes tous vulnérables et enclins à chercher une certaine assurance dans des choses finalement fiable. À l'opposé de cette pratique de se faire un trésor ou une sécurité par des choses matérielles, Jésus nous ordonne d'amasser des trésors dans le ciel. Un homme découvre un immense trésor dans un champ. Il le cache, en tout ce qu'il possède à acquérir le champ. Jésus a raconté cette histoire. Il a dit que le royaume des cieux ressemble à un trésor. Il a infiniment plus de valeur que tout ce que nous pourrions posséder dans ce monde. Alors, le choix ne devrait pas être difficile, autant plus que le royaume des cieux est pour toujours. En tant que membre du royaume, c'est-à-dire disciple de Jésus-Christ, j'accumule les trésors en mettant en pratique ses commandements, comme par exemple le serment sur la montagne, ou la grande mission, Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus insiste. Ce qui a de l'importance pour toi, ce qui est ton trésor, domine ton cœur. Deuxièmement, une lumière pure. Chapitre 6, versets 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes. L'œil est le seul organe de notre corps qui laisse entrer la lumière. S'il est en bon état, c'est-à-dire en santé, tout le corps en bénéficie en quelque sorte. Mais Jésus ne veut pas nous instruire sur notre corps. Il prend cela comme illustration pour nous faire comprendre que ce que nous laissons entrer en nous, nous entraîne soit dans les ténèbres ou soit dans la lumière. Ce qui nous entoure doit être regardé avec le regard de Jésus. Imaginez que Jésus se tient à votre côté et regarde les mêmes choses que vous. Seriez-vous gêné? À défaut d'une présence physique de Jésus, nous possédons sa parole, qui nous donne le moyen de comprendre ce qui édifie ou éclaire ma vie, et ce qui me ralentit dans ma vie chrétienne ou me fait dévier du droit chemin. Êtes-vous conscient de l'importance de connaître la parole, la Bible, pour être en mesure de distinguer entre ce qui vous nuit et ce qui vous édifie? Troisièmement, un seul maître, chapitre 6, verset 24. Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. La plupart des Bibles utilisent le verbe servir dans notre verset. Parfois, une note bas de page explique que le sens littéral est « être esclave de ». Si je peux bien servir deux maîtres, cela n'est absolument pas possible en tant qu'esclave. L'argent, ou mammon dans certaines traductions, est personnifié comme s'il était une divinité, une idole. Mon attachement à l'argent fait de moi un esclave au service de cette idole. Ce n'est pas forcément la richesse qui nous rend idolâtres, mais plutôt la place que l'argent occupe dans notre vie. L'argent règne en maître dans nos sociétés. Parfois, on a l'impression que même les gouvernements s'inclinent devant son pouvoir. Jésus insiste. On ne peut servir deux maîtres. Soit on idolâtre l'argent, soit on appartient à Dieu. Soyez attentifs. Examinez votre vie. Ne soyez pas complaisant dans votre regard sur vous-même. Que Dieu soit le seul maître de votre vie. Regardons maintenant comment ces trois premiers points s'articulent. En premier, nous étions invités à ne pas investir dans des trésors terrestres, périssables et exposés au vol. Le troisième point nous a mis en garde. L'argent peut devenir facilement une idole. Mais on ne peut être esclave que d'un maître à la fois, mammon ou Dieu. Au milieu de ces deux points se trouve un avertissement primordial. Un œil pur, c'est-à-dire en accord avec la parole de Dieu, est indispensable pour que toute la personne soit saine. Voyez-vous combien ce regard pur est indispensable pour faire, guidé par la parole de Dieu, les bons choix. Quatrième point, ne vous inquiétez pas. Chapitre 6, verset 25 au verset 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Malgré nos inquiétudes, nous ne pouvons pas prolonger notre vie. Cette affirmation à l'encontre de l'opinion générale. Mais combien cela est rassurant de savoir que Dieu tient notre vie entre ses mains. La providence de Dieu nous est montrée par deux exemples, les oiseaux pour le monde animal et les lys ou les fleurs pour le monde végétal. Dieu, dans sa grâce, a pris soin d'eux. il a créé le monde de telle façon que les animaux et les végétaux puissent se développer dans de bonnes conditions. Alors, pourquoi douter qu'il ne prendrait pas aussi soin de nous? À ses yeux, nous avons une valeur bien plus grande qu'eux. Ne nous a-t-il pas créés à son image? Alors, ne cédons pas à l'inquiétude. Ne ressemblons pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour nous qui avons mis notre confiance en Dieu, Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est notre Père céleste, qui sait ce dont nous avons besoin. Cinquièmement, un seul objectif, chapitre 6, versets 33 à 34. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le paragraphe termine avec cet appel solennel. Recherchez prioritairement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Rien, absolument rien, doit concurrencer cet objectif. Tout autre objectif est secondaire, temporaire, incertain. Nous sommes entrés nus dans ce monde, nous, nus, nous allons le quitter. Et nos héritiers se feront un plaisir de vendre et jeter ce qui nous a été si précieux. Cependant, si le royaume et la justice de Dieu sont notre priorité, alors nous avons tout gagné. Le royaume de Dieu existe pour l'éternité. Et y entrer, c'est comme entrer dans l'Éden, le paradis. En recherchant la justice de Dieu, c'est-à-dire en pratiquant la volonté de Dieu révélée dans la Bible, je ne profite pas seulement de l'approbation de Dieu ici-bas sur terre, mais j'ai l'assurance que je goûterai à leurs fruits dans le royaume de Dieu. Cette assurance de ne pas avoir travaillé en vain procure une sérénité même dans les pertes matérielles, dans l'hostilité dans ce monde, dans les situations anxiogènes, et que sais-je encore. Dieu promet à celui qui a des bonnes priorités de pourvoir à ses besoins. Ne vous inquiétez pas du lendemain, n'est pas un commandement bidon. Il repose sur le solide fondement de la connaissance de Dieu. Lisez les histoires de l'Ancien Testament. Vous constaterez combien Dieu est patient même avec les rebelles. Combien il est fidèle et lent à la colère. Sa compassion, sa bonté et son amour marquent les récits. Regardez les affirmations du Nouveau Testament. Il continue à être patient, fidèle, lent à la colère, etc. Il nous a aimés alors que nous étions encore ennemis de Dieu. Alors, ne pas s'inquiéter du lendemain est tout à fait possible. Car en tant que disciple du Christ, je me sers entre de bonnes mains. Jésus étant mon bon berger. Dieu le Créateur étant mon Père. Que puis-je encore demander en plus? Conclusion. Ne vous inquiétez de rien. Comment mettre en pratique ce commandement de Dieu? Je vous encourage de prendre une feuille et d'y noter vos inquiétudes. Puis tentez de trouver dans le texte que nous venons d'étudier la démarche adéquate à votre situation. La chose vous paraît inextricable? Parlez-en avec une personne solidement enracinée dans la parole de Dieu. Ensemble, vous devrez être en mesure d'avancer dans la bonne direction. N'attendez pas forcément un changement spectaculaire. Soyez persévérant. Plusieurs petits pas finissent par vous faire progresser. Que Dieu vous bénisse. Amen.